Chers frères et sœurs, l'Ascension, c'est une belle et grande fête et en même temps, on est un peu sur la réserve. Parce qu'on se demande si tous ces nuages accumulés, ça n'est pas autant de nuages féeriques, magnifiques, mais somme toute assez mythologiques. Sommes-nous bien dans le concret et dans le réel ? Eh bien oui, tout à fait. Et cette fête, loin de nous percher sur les hauteurs, nous donne de contempler le cœur du réel avec une lumière nouvelle. Pour le comprendre, il faut écouter ce que saint Luc nous dit dans les Actes des Apôtres. Il nous dit que Jésus disparaît dans une nuée, que c'est la nuée qui le retire du monde. Et qu'est-ce que la nuée ? Peut-être que ça nous dit quelque chose parce que cette nuée, on l'a déjà aperçue. Dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance notamment. La nuée qui signifie la présence de Dieu. Jésus qui s'en va, où va-t-il ? Est-ce que vous avez une idée, les filles ? Est-ce qu'il s'est retiré, comme Thomas Pesquet, dans une station spatiale internationale, quelque part dans l'univers ? Tu penses que oui ? Non ? Il est allé au ciel. Et c'est où le ciel ? Ah ! Et donc le ciel, t'as raison, il est parti au ciel. Ça veut dire qu'il entre du côté de Dieu. Dieu n'est pas dans la matière. Et donc effectivement, il n'est pas dans une station spatiale internationale. Il n'est pas caché quelque part dans un coin de l'univers, puisque c'est lui qui tient tout l'univers dans sa main. Et donc quand Jésus quitte cette terre, c'est pour entrer en plénitude du côté de Dieu. Et comme l'a dit le Père Jocelyn, il entre pas simplement, lui le Fils bien-aimé du Père, il entre avec son corps, il entre avec toute son humanité qu'il est venu prendre sur la terre, et il fait entrer l'humanité du côté de Dieu. Et ça c'est magnifique. Parce que du coup, on sait que maintenant, la route est ouverte. Et le ciel, c'est ça. Le ciel, c'est l'homme accueilli par Dieu. C'est l'étreinte de Dieu avec sa créature. Ça, c'est le ciel. Ça veut dire que le ciel, frères et sœurs, vous le comprenez, peut déjà commencer sur la terre. À chaque fois que nous entrons dans un contact vivant avec Dieu, à chaque fois que nous nous laissons embrasser par Dieu, là, nous goûtons déjà le ciel. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, vous avez un signe très simple que vous faites de temps en temps et que vous connaissez tous a priori, c'est le signe de la croix. Le signe de la croix nous redit que le Fils bien-aimé du Père est descendu dans ce monde. Il est venu prendre notre nature humaine, qu'il a accepté, comme nous les hommes, de mourir. Il est parti à gauche. Dans la Bible, ça dit le monde des ténèbres et de la mort. Il est tombé dans ce monde des ténèbres et de la mort, mais il n'y est pas resté. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet amour infini qui le relie au Père, ce souffle d'amour, cette respiration d'amour qu'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui le fait passer à la droite du Père. Ça veut dire tout à côté du Père. Il est vivant, il est ressuscité. On dit Amen parce qu'on y croit. Frères et sœurs, cette réalité de Dieu qui est toute proche de nous, comment est-ce que nous pouvons la goûter ? Nous pouvons la goûter grâce à une instance en nous qui est particulière, que l'on appelle l'âme. Comme disait le curé d'Ars, l'homme n'a pas simplement des besoins matériels et des appétits grossiers, il a des besoins de l'âme. J'entendais l'autre jour François Cheng, vous savez, ce philosophe, poète, écrivain, membre de l'Académie d'origine chinoise, qui sur un plateau de télé se risquait à parler de l'âme. Alors quand il commence à parler de l'âme, parce qu'il a écrit un livre sur l'âme. Alors là, tout le monde ouvre des grands yeux, Luc Ferry qui est en face le regarde d'un air un peu soupçonneux, et on lui dit, allez-y, parlez-nous de l'âme, c'est quoi l'âme en fait ? Et il dit, dans l'être humain, il y a le corps, tout le monde comprend, il y a l'esprit qui s'occupe notamment du domaine de la connaissance et d'organiser la vie humaine, et puis il y a l'âme, qui s'exprime d'abord dans le domaine de l'amour et de la création artistique. Et cette âme, nous dit François Cheng, est reliée au souffle vital, à ce qui donne la vie. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas des duplos, simplement des organes entassés les uns sur les autres. Il y a quelque chose qui anime l'ensemble de notre être, qui lui donne ce souffle de vie, et c'est notre âme, reliée au souffle vital. Et François Cheng lui-même dit, je reconnais, j'avoue, je confesse, que moi aussi, pendant des années, je n'ai pas trop osé en parler. Et pourtant, c'est fondamental. Parce que c'est ce qui fait ce qui est le plus profond en nous. C'est le tréfonds de notre être. C'est là où nous sommes le plus singuliers aussi. Et c'est aussi ce qui fait notre dignité, frères et sœurs. Car comme le dit très bien ce philosophe, il se peut, par les accidents de la vie, que nous perdions l'esprit. Par la maladie, par exemple, Alzheimer, qui atteint l'esprit humain. Est-ce que pour autant, nous devenons des légumes ? Non ! Nous avons encore toute notre dignité. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'âme. C'est ce qu'il y a de plus intangible. François Tchang dit « L'esprit est central, mais l'âme est essentielle. » Et il cite cet exemple des nazis qui, en 1944, au château de Vincennes, ont massacré des résistants. Et quand ils les ont massacrés, ils leur crevaient les yeux avec des talons, etc. Je vous passe les détails. Ils essayaient d'en faire de la bouillie de chair, dit François Tchang. Parce que ce que voulaient les nazis, c'était pas simplement anéantir leur esprit et tâcher de leur soutirer des noms de résistants qu'ils allaient trahir sous la torture. Mais ce que voulaient les nazis dans leur projet diabolique, c'était anéantir l'âme, la dignité de ces personnes. Et voilà ce qu'il y a de plus intangible et de plus précieux en nous. Or, frères et sœurs, dans les temps que nous avons traversés ces derniers mois, il se peut que nous ayons été blessés, quelles que soient nos convictions, nos options, je ne rentre pas du tout dans ces débats, mais tous, quelque part, nous avons été un peu mal à l'aise, surtout durant le premier confinement. Parce qu'à ce moment-là, nous avons exalté la vie du corps, la vie biologique. On s'est dit surtout, il faut que personne n'attrape ce virus. Donc, on va tout mettre sous cloche. La vie biologique exaltée. Ensuite, on nous a dit la vie de l'esprit, la connaissance scientifique très importante. C'est même le comité scientifique qui, quelque part, dirigeait notre pays. Et puis, on nous a dit c'est tout. Voilà, ça c'est l'essentiel. Tout le reste, c'est non essentiel. Et là, tous, on s'est dit, aïe, 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 comment on va vivre ? Comment on va faire pour vivre ? Parce qu'il manquait toute la vie de l'âme, la création artistique, la vie spirituelle de notre pays, et tout ça, ça ne comptait plus. On aurait pu comprendre à la limite qu'il faille s'adapter, y renoncer, etc., mais au moins aurait-il fallu le nommer pour que l'on sache que l'on vivait vraiment dans un monde humain, où il y avait plus que nous-mêmes. Et à aucun moment, ça n'a été le cas. Ça a provoqué d'immenses blessures. On nous a même demandé de renoncer, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, à accompagner nos proches mourants. Jamais on n'a imposé ça à l'être humain sur la Terre. Jamais. Et donc là, on s'est dit, ah là là. Et les funérailles elles-mêmes, on en privait une grande partie des familles. Or, frères et sœurs, vous avez appris comme moi que l'être humain devient vraiment humain à partir du moment où il a le souci d'enterrer ses morts. C'est ce qui nous distingue de l'animal, et tous les scientifiques sont d'accord avec ça, tout le monde s'accorde en disant, quand l'homme a le souci d'enterrer ses morts, là, vraiment, c'est l'avènement de l'humanité. Ça veut dire que d'un événement qui pouvait paraître simplement biologique, tout d'un coup, l'homme a conscience qu'il s'agit d'un événement également éminemment spirituel. Et donc, il institue un rite et il enterre ses morts. Eh bien, nous avons fait le chemin exactement inverse. Nous avons tout à coup considéré que, au lieu d'être un moment éminemment spirituel, la mort n'était plus qu'un moment simplement biologique. Ce renoncement n'est pas possible, il n'est pas tolérable. Il crée un profond malaise en chacun de nous. Alors, frères et sœurs, le fait est qu'après avoir traversé tout cela, nous sommes un peu à la croisée des chemins. Nous sommes à un moment où bien des gens autour de nous ont découvert, redécouvert parfois, cette vie de l'âme, ces besoins de l'âme. Beaucoup autour de nous cherchent davantage. Ils veulent un sens à leur vie. Ils veulent une direction fondamentale. Et dans ce moment historique, nous les chrétiens, du coup, nous avons une partition à jouer. Humblement, petitement, en vérité. Mais est-ce que nous allons la jouer ? Vous l'avez entendu, Jésus nous dit, c'était le verset d'acclamation de l'évangile, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Jésus n'a pas dit si tu es en forme, si tu as un bac plus 3 en théologie, si vraiment tu te sens bien, vas-y, partage ta foi. Il a dit, allez là, de toutes les nations, faites des disciples. Est-ce que, frères et sœurs, vous avez déjà entendu cet ordre de Jésus sur vous ? Va, de toutes les nations, fais des disciples. J'en entends parmi vous qui vont se dire, oulala, mais alors là, moi, ça, il doit y avoir une erreur. Ça doit être pour le voisin ou la voisine, c'est pas pour moi. Si, figurez-vous, c'est pour vous. Et vous allez me dire, alors comment on fait ? Jésus, il est bon. Il nous donne le moyen. Il nous dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ne craignez rien, je suis là, je suis avec vous. Alors allez-y. Mais allez-y pour faire quoi, pour dire quoi? Eh bien, voyez, frères et sœurs, hier soir, en préparant cette homélie, je me suis dit, Jésus est quand même extraordinaire. Parce que non seulement il nous donne le moyen, mais il nous donne le contenu. Qu'est-ce qu'on va partager? Eh bien, justement, qu'il est là, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que le monde attend? De savoir ça, qu'il est présent. C'est ça qu'on va partager. Et comment? Dans quel lieu? Eh bien, là, vous avez de la chance. Vous êtes bénis. Parce que, comme vous le savez, nous allons relancer les petits groupes de maison. Et où est-ce que je peux partager ce qui habite mon cœur en profondeur, gratuitement, dans un moment de qualité, dans mon petit groupe de maison préféré? Et donc, j'espère, frères et sœurs, à partir du 16 mai, qu'il y aura de nouveau des dizaines de petits groupes de maison dans la paroisse, où on va pouvoir partager comme ça, en profondeur. Jésus ne nous demande pas de faire du racolage. On n'est pas chargé de recruter de force, on est juste chargé de partager cette présence qui nous habite. C'est pas compliqué, il nous le promet. Seigneur, nous nous confions à toi. Donne-nous à chacun la claire vision de ce que nous devons faire et la force pour l'accomplir. Amen.